Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Angélus, en ce dimanche, le pape demande à la foule des pèlerins de prier pour les victimes de Lampedusa. Dans son message, il a rendu hommage aux missionnaires et aux humbles dont la foi déplace les montagnes. Nous reviendrons dans ce magazine sur l'assemblée plénière du CCEE, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Nous entendrons notamment les réflexions de Mgr Olrich, l'archevêque de Luxembourg, et de Mgr Souef, archevêque de Chypre des Maronites. Des réflexions sur l'État et Dieu, l'Europe entre laïcisme et laïcité, le thème de cette assemblée plénière. Et puis, dans la seconde partie de ce magazine, nous entendrons Joël Molinario, directeur adjoint de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à Paris. Il nous parlera de son parcours de catéchisé. C'est l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. La tragédie de Lampedusa et le pèlerinage à Assise, deux faits marquants de cette semaine rappelés par le pape lors de la prière de l'Angélus ce dimanche midi. Depuis la fenêtre des appartements pontificaux place Saint-Pierre, le pape François a également donné plusieurs exemples de personnes à suivre par tous les fidèles, des missionnaires aux jeunes martyrs béatifiés samedi à Modène, en Italie. Les précisions de Jean-Baptiste Cocagne.
Si les premiers mots du pape furent pour évoquer son pèlerinage à Assise et remercier toutes les personnes qui l'ont accueilli, le moment fort de cet Angélus restera l'instant de silence et de prière qu'il a demandé en mémoire des victimes du naufrage de Lampedusa. « Laissons pleurer notre cœur », a-t-il déclaré. Au-delà de ce rappel d'un drame qui l'a particulièrement touché, le pape François a voulu donner en exemple les missionnaires célébrés en ce mois d'octobre. Ils portent l'évangile et pour accomplir leur mission, ils ont contourné bien des obstacles. Même à notre niveau, nous pouvons nous aussi porter dans notre vie quotidienne un témoignage au Christ grâce à la force de Dieu, la force de la foi, force qui nous vient de la prière. Les humbles également ont été montrés en exemple, ceux dont la foi, petite mais vraie et sincère, peuvent réaliser des choses humainement impossibles et impensables, et d'évoquer les pères et les mères devant composer avec un quotidien difficile, ou les malades qui transmettent la sérénité à qui va les voir. Autre exemple cité par le pape François, Rolando Rivi, un jeune séminariste de 14 ans, tué en 1945 à Modène, dans le nord de l'Italie, parce qu'il avait osé dénoncer les excès de l'immédiate après-guerre. Un jeune courageux qui savait où il devait aller, qui connaissait l'amour de Jésus et qui a donné sa vie pour lui. Autant d'exemples pour chacun d'entre nous.
Jean-Baptiste Cocagne. Direction maintenant Bratislava en Slovaquie. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe y a tenu cette semaine son assemblée plénière sur le thème « Dieu et l'État, l'Europe entre laïcité et laïcisme ». Les évêques venus des quatre coins du continent ont pu débattre de ce sujet particulièrement d'actualité. Parmi eux, Mgr Jean-Claude Olrich, l'archevêque de Luxembourg. Il a appelé à ce que l'Église ne se replie pas sur elle-même.
Nous ne devons pas être une forteresse dans la forteresse. Donc on décrit parfois l'Europe comme une forteresse. Et on pourrait avoir, si l'Église est agressée de tant de parts, avoir la tentation de faire une forteresse Église dans l'Europe. Mais ce n'est pas ça. Tout d'abord, nous devons avoir une identité basée sur notre foi qui est vivante et d'avoir un vécu de cette foi dans le quotidien qui éveille l'espérance. Et l'espérance était un peu, je pense, un mot-clé de ce débat, que nous devons entamer un dialogue avec beaucoup d'espérance pour l'avenir, centré sur notre identité de foi catholique. J'ai aussi mentionné que ce serait peut-être bien de mettre un peu les forces en commun. Par exemple, on a besoin de formation pour des hommes qui s'engagent dans le domaine public, en politique, etc. Et que nous pourrions profiter un peu plus de notre catholicité pour faire des choses ensemble en Europe.
Est-ce que vous avez mentionné aussi le rôle que peut avoir le pape François ou qu'est-ce que vous pensez d'un pape non européen? Est-ce qu'il peut aider les évêques de l'Europe et les chrétiens de l'Europe à développer mieux leur foi?
Tout d'abord, on a beaucoup mentionné le pape François parce qu'il est vraiment un signe d'espérance dans cette Église. Il parle au cœur des gens et il éveille en eux la foi et l'espérance. Ces paroles touchent les hommes. Ce sont des paroles qui viennent vraiment du cœur de l'Évangile. On a aussi beaucoup mentionné le pape Benoît XVI parce que son accent sur la raison humaine est aussi une approche qui nous permet justement d'entrer dans un dialogue réfléchi avec le monde européen. Et pour moi, je suis ravi d'avoir un pape non européen parce que je pense que l'Europe est essoufflée, l'Europe est fatiguée, l'Europe est depuis longtemps, elle n'est plus le centre du monde. Peut-être que cela s'est opéré aussi vite que les Européens ne sont pas toujours aperçus de cela. Et ça fait bien d'avoir un pape qui vient d'un autre monde, qui, avec de nouvelles idées, peut vraiment féconder la terre chrétienne de l'Europe.
Monseigneur Jean-Claude Olrich, l'archevêque de Luxembourg, au micro de Mario Galgano, notre confrère de la rédaction germanophone, qui a également recueilli les réflexions de Monseigneur Joseph Souef, l'archevêque de Chypre des Maronites. Il était présent à cette assemblée plénière du CCEE. Il revient sur les défis que doit relever l'Église et les chrétiens, et notamment les chrétiens du Proche-Orient, qu'il connaît particulièrement bien.
Je comprends qu'il y ait une séparation dans le sens positif, dans le sens créatif, d'accord. Mais je ne peux pas voir une église en dehors du monde. Parce que d'abord, notre foi est basée sur l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il est l'Emmanuel. Alors l'église, elle est dans le monde. Il y a aussi une diaconie, c'est-à-dire l'église, elle est là pour rendre service à l'homme, à la personne humaine. Comme d'ailleurs le but de l'État, un État qui est fondé sur les droits de l'homme, la dignité humaine est là pour servir l'homme, la personne humaine. Donc, dans ce sens, je trouve un espace de dialogue et d'interaction, disons, une complémentarité entre le rôle de l'Église et le rôle de l'État qui doit respecter les valeurs fondamentales et surtout la valeur de la foi, de la dimension religieuse. Moi, en venant de la Méditerranée, du Moyen-Orient, Chypre qui est une porte vers le Moyen-Orient, on est devant des religions, on convit avec des religions, c'est-à-dire qui, là où il n'y a pas une séparation entre religion et État, c'est une seule réalité. Alors l'Église, elle a aussi un rôle d'aider vers une distinction, mais aussi une complémentarité, dans le sens que le citoyen est un être religieux. Et ici, l'expérience de l'Europe, certainement, est positive, dans le sens qu'elle pourrait aider aussi plusieurs pays de la région d'arriver à une distinction de sorte qu'un État doit accueillir tous les citoyens. Et là où il y aura un même niveau, une égalité en traitant tous les citoyens. Et ici, je parle plus précisément des chrétiens du Moyen-Orient qui sont des citoyens de la région. Alors, ils doivent participer à la vie sociale, à la vie sociopolitique, à la vie culturelle de leur pays.
Comment les chrétiens de l'Europe peuvent aider les chrétiens qui se trouve au Moyen-Orient?
Les chrétiens du Moyen-Orient ne sont pas des pèlerins d'aujourd'hui ou bien d'hier. Ce sont la continuité des communautés apostoliques. Depuis la naissance du christianisme de la région, il y a des chrétiens et ça continue. Et leur présence est un grand aide pour les musulmans et pour les juifs, dans le sens que c'est une nécessité pour avoir un espace de convivialité et d'un dialogue de vie interreligieux. La vie quotidienne, ce n'est pas un dialogue autour d'une table, ce n'est pas un dialogue théorique, mais c'est un dialogue de vie sociale. Alors, comprendre cette réalité et défendre aussi la présence, parce que malheureusement, il y a des cas, il y a des espaces, il y a des lieux là où cette présence est menacée maintenant. Alors, non. Il faut et que l'Europe et le monde entier, et même les musulmans, les juifs, tout le monde doivent valoriser la présence des chrétiens et la présence des uns envers les autres, en fin de compte. Parce que c'est un gain humain, spirituel, culturel, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour toute l'humanité. C'est une région qui souffre, et certainement la souffrance ne provient pas toujours des questions religieuses, mais il y a aussi l'économie, il y a le pétrole, il y a tant de raisons. Mais il faut voir le message. Dans cette région, il y a un message au monde entier, un message que les religions, les cultures peuvent convivre, peuvent être ensemble peuvent construire une société et un monde de paix et de joie et de réconciliation.
Monseigneur Youssef Souef, l'archevêque de Chypre des Maronites. Les chrétiens d'Orient, il en a été question également à Nice, dans le sud de la Serbie, lors d'une messe célébrée à l'occasion des 1700 ans de la promulgation de l'édit de Milan, qui autorisait le culte chrétien dans l'Empire romain, un texte fondamental de l'empereur Constantin, né en 272 dans cette ville de Nice. Dans son homélie, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a dénoncé le fait que les chrétiens en Syrie, en Égypte et, plus globalement, dans tout le Proche-Orient, soient persécutés par tous de nos jours, comme par le passé. Le patriarche orthodoxe a rappelé que l'esprit de la tolérance religieuse devait s'imposer partout dans le monde. Des milliers de personnes, des représentants de l'Église catholique et du culte musulman, ainsi que des dignitaires de l'État serbe, étaient présents lors de cette messe. Il y a une semaine, dans le cadre de l'année de la foi, se sont déroulées des journées dédiées aux catéchistes. Le thème était « Le catéchiste, témoin de la foi ». Deux jours plus tôt, avait lieu le congrès international des catéchèses, au cours duquel Joël Molinario, l'invité de ce dimanche, est intervenu avec une conférence sur l'importance du catéchisme de l'Église universelle dans la catéchèse. Joël Molinario est actuellement le directeur adjoint de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique à Paris, au Théologicum de l'Institut catholique de Paris. Il nous partage son propre parcours de catéchisé quand il était enfant puis adolescent. Interrogé par Catherine Aubin, il nous présente aussi les changements radicaux de l'enseignement de la catéchèse au cours de ces 15 dernières années.
Joël Molinario, vous êtes actuellement un des responsables de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique à Paris. Comment vous-même avez-vous été catéchisé ?
Mon itinéraire de catéchèse est un itinéraire assez simple, je pense, pour des enfants de mon âge, c'est-à-dire, je suis né donc en 58, donc j'ai été enfant de cœur. Ça a commencé comme ça, en fait, j'étais enfant de cœur. Donc, les premières années, on a commencé à célébrer en français. Et puis, j'étais en catéchèse, d'abord dans un cycle très classique. On apprenait les prières par cœur, il y avait des notes de prière. Et puis, brusquement, à l'âge de 9 ans, eh bien, on passe à une catéchèse complètement différente. Les catéchèses anthropologiques et les catéchèses à partir de la vie. Où là, on part de discussions. C'était un prêtre, pourtant un prêtre âgé, qui animait cette année de CE2, donc. Et on partait de la vie, de nos discussions, etc. Brusquement, là, il y a eu un changement dans l'itinéraire, la manière de faire la catéchèse. Et après, l'autre moment qui m'a marqué aussi, c'est l'adolescence. Là, une rencontre avec un aumônier qui nous a fait faire vraiment une expérience de foi, une expérience de Dieu, une expérience relationnelle très forte, relue dans la prière, dans la foi, qui m'a beaucoup marqué. Quoi, voilà.
Dans vos domaines de recherche, vous le dites vous-même, il y a la théologie, la catéchèse et l'anthropologie. Qu'est-ce que les enfants, les adolescents attendent aujourd'hui de la catéchèse ?
La question est simple et pourtant pas si facile à répondre. Parce que, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'enfants qui n'attendent rien. Et mon expérience dans l'enseignement catholique, parce qu'après avoir été enseignant, j'ai quand même été adjoint pastoral dans l'enseignement catholique. Et je vois bien que par rapport à une génération d'avant, où il y avait peut-être une certaine résistance par rapport à toutes les images de l'Église, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette réaction par rapport à l'Église, mais plutôt une sorte de no man's land, no man's land spirituel, dans le sens que si on ne propose rien, il ne se passera pas grand-chose. Et si on propose quelque chose, les jeunes ou les enfants sont pas forcément contre. Aujourd'hui, vraiment, c'est la logique de la proposition de la foi qui était celle des évêques de France, dans le fameux rapport de 1996, qui est vraiment, je crois, le défi d'aujourd'hui, quoi. Savoir proposer la foi, donner envie, donner le goût de la foi à des jeunes qui sont pas forcément contre, mais qui sont ailleurs. Et l'enseignement catholique, pour cela, je trouve que c'est un lieu formidable. L'enseignement catholique, c'est un lieu un peu magique pour ça, parce qu'on a là des enfants qui sont dans une institution d'église, qui n'y croient pas forcément ou qui n'y croient pas du tout. Et pourtant, il y a ce défi-là qu'à travers l'éducation et la proposition de l'enseignement catholique, eh bien, il y a quelque chose de Dieu qui peut se dire, une évangélisation qui puisse se faire.
Joël Molinario, parmi les titres de vos ouvrages, on est étonné de l'assemblage de vos titres. Par exemple, « La catéchèse et le contenu de la foi », La catéchèse au service de la nouvelle évangélisation. Il n'est pas question de foi dans la catéchèse, ni d'évangélisation ?
Effectivement, si on a eu besoin de dire ça, c'est que ça n'a pas paru évident. C'est-à-dire qu'on hérite quand même d'une conception de la catéchèse qui est un enseignement fait pour des enfants déjà chrétiens. Donc le catéchisme, c'était le lieu de l'intelligence déjà vécue de la foi. Donc on est resté très longtemps sur cette définition de la catéchèse comme un enseignement pour des enfants déjà chrétiens. Il est clair que nous, en France, aujourd'hui, cette définition ne tient plus pour beaucoup, beaucoup d'enfants. On pense qu'il y a plus de 50 000 enfants non baptisés dans les groupes de catéchèse en France aujourd'hui, entre l'enfance et l'adolescence. Donc des enfants qui ne demandent même pas à leurs parents et qui veulent s'inscrire au caté parce qu'il y a des copains dans le groupe et qui veulent voir qu'est-ce qui se passe. Il se passe des choses de tout à fait hors des manières de faire d'il y a 50 ans. Et donc du coup, la catéchèse est au défi de l'évangélisation, bien sûr, et au défi de proposer la foi. C'est pour ça que les évêques de France, par exemple, dans le texte de 2006 sur la catéchèse, ont remis en place cette idée de la première annonce de la foi, qui n'est pas une question extérieure à la catéchèse. Alors qu'avant, c'est autre chose. Il y avait la première annonce, oui, ou l'évangélisation, puis après on parlait de catéchèse. Mais là, on peut plus séparer si simplement les choses.
Première annonce de la foi, ça fait partie justement de tous ces nouveaux termes que l'on entend, pastoral d'engendrement, aîné dans la foi. Expliquez-nous un peu.
Aîné dans la foi, c'est un terme qui est dans le texte national des évêques de France pour l'orientation de la catéchèse et qui essaie de comprendre cette manière d'être un témoin de la foi en même temps que d'être un initiateur dans la foi. Notre pape actuel, ainsi que Paul VI, a beaucoup insisté sur le témoignage. L'idée d'aîné dans la foi porte cette idée de témoignage, en même temps que cette idée que le catéchisme, c'est quelqu'un qui doit conduire quelqu'un à faire un trajet, une initiation, comme au catéchuménat.
Joël Molinario, vous êtes donc professeur de théologie. Comment vous vivez cet enseignement ? Est-ce que c'est aussi un enseignement qui est pour vous une annonce de la foi pour permettre à d'autres d'annoncer la foi ?
Le travail qui est fait à l'ISPC se fait avec des pasteurs. Toutes les personnes qui viennent ici sont des personnes engagées dans la pastorale, dans la catéchèse des enfants, des adolescents, des adultes. Toutes les personnes qui viennent à l'ISPC pour faire donc un master, une licence canonique, sont des personnes envoyées parce qu'ils ont des responsabilités catéchétiques ou parce qu'ils vont en avoir. Voilà. Donc en fait, l'ISPC, c'est d'abord un lieu où on reprend, on relie l'expérience que ces personnes ont déjà de la catéchèse ou l'expérience pastorale qu'ils ont déjà, parce qu'ils sont tous avec une expérience extrêmement riche. Il y a 25 pays. Donc vous imaginez bien que quand on vient de Corée, du Vietnam, quand on vient de Burkina Faso ou quand on vient du Mexique, on a des expériences d'église très très différentes. Et donc l'ISPC, c'est un lieu qui fait réfléchir, qui donne des outils pour reprendre ces questions pastorales, les reprendre de manière théologique et avec des outils des sciences humaines aussi, pour comprendre ce qui se passe et les enjeux et comment y répondre après. On veut donner à nos étudiants les outils intellectuels pour comprendre ce qu'ils vivent et comprendre la situation où ils sont.
Joël Molinario, vous étiez donc à Rome pour ce rassemblement des catéchistes et le pape, entre autres, en s'adressant aux catéchistes, leur disait « N'ayez pas peur de changer ».
Moi, j'ai été touché par la réception de ces paroles de la part des catéchistes qui étaient là dans la salle Paul VI. Parce que vraiment, c'est des paroles qui touchent au cœur. Il dit, oui, il faut s'ouvrir. Et il a pris une image, il fallait pas rester dans sa chambre, parce qu'après, on en est enfermé, il faut pas s'enfermer dans ses certitudes. Mais s'il y a du changement, c'est pas du changement pour du changement. On change parce qu'on repart du Christ. Voilà, et vous pouvez changer si vous repartez du Christ. Vous n'avez pas peur si vous repartez du Christ.
Joël Molinario, c'était l'invité du dimanche de Catherine Aubin. Un entretien que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.